Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Médiacité Toulouse pour un article qui s'appelle « Maison squattée à Toulouse, derrière la polémique, la réalité de la grande précarité ». C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Gaël Cérez.
Bonjour.
Gaël, vous êtes journaliste et rédacteur en chef de Médiacité Toulouse. Nous allons nous intéresser à une affaire dont s'est emparée une partie de la presse d'extrême droite, dont Valeurs Actuelles, dont s'est emparé aussi le quotidien régional La Dépêche du Midi. Il s'agit donc du squat d'une maison à Toulouse. Dans ce type d'affaire, il est assez fréquent d'entendre le point de vue de la personne dont le logement est occupé. Il est plus rare de s'intéresser à celui des gens qui s'y sont installés illégalement. Vous avez proposé de laisser la parole aux deux parties dans cet article. On va y revenir dans quelques instants. On abordera aussi la manière dont justement ces sujets sont traités dans la presse et dont l'extrême droite parvient bien souvent à dicter le tempo médiatique. Mais d'abord un mot sur cette maison, Gaël. Où se trouve-t-elle? À quoi ressemble-t-elle et à qui appartient-elle?
Alors c'est une maison qui date de l'entre-deux-guerres, a priori, qui est situé dans le quartier Sept-Deniers, qui est un quartier toulousain coincé entre le canal et la Garonne, qui est un petit peu un village en fait, un peu enclavé, très sympathique au demeurant. Et cette maison dans une rue très peu passante, un peu isolée, elle est entourée de... C'est une vieille maison avec un étage, entourée de végétation, d'arbres, etc. Elle appartient à une dame qu'on va appeler Monique, comme on l'appelle dans l'article, c'est son vrai nom, son vrai prénom, et c'était la maison de son père, a priori. Je dis a priori parce que je l'ai rencontrée, mais elle a pas voulu répondre à nos questions, donc là-dessus, je me rapporte à ce qui a été publié dans la presse.
Depuis combien de temps cette maison est-elle squattée?
Elle a été squattée plusieurs fois avant que cette affaire n'apparaisse. Au moins une fois, d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu des fêtes clandestines à l'intérieur. Et oui, il y aurait eu des fêtes clandestines à l'intérieur, parce que moi, évidemment, j'y étais pas. Et en tout cas, dans l'affaire qui nous intéresse, elle a été squattée ou occupée à partir du 11 avril. Et jusqu'au 19 avril, donc une semaine en fait.
Quelle a été la réaction de la propriétaire Monique lorsqu'elle a su que sa maison était squattée?
Alors en fait, donc il y a un espèce de flou là-dessus parce que évidemment, moi j'ai pas sa version. La seule version en dehors de celle des occupants, des squatteurs, c'est celle qui a été médiatisée par une figure d'extrême droite locale. Donc on pourrait y revenir plus tard. Donc d'après ce que je sais, mais encore pour les auditeurs, il y a des prudences à prendre sur ces informations. Les squatteurs donc ont pris possession de la maison le 11 et la vieille dame qui a presque 80 ans s'en est rendue compte 3 ou 4 jours plus tard, alertée par un voisin ou elle-même en se rendant sur place après plusieurs jours d'absence, puisque c'est l'un des enjeux du sujet qu'on détaille pas forcément dans l'article parce que c'était pas l'angle, mais c'est une maison où elle dit se rendre régulièrement et où les squatteurs disent que en fait plus personne ne se rendait. Quand elle a découvert qu'il y avait un cadenas qui a été mis sur sa porte, c'était la stupeur, la colère, on peut la comprendre, personne n'apprécierait ça, même si c'était pas une maison où elle habitait et que c'était une maison, j'ai vu des photos, en très mauvais état à l'intérieur. Pas du fait des squatteurs qui l'occupaient à ce moment-là, d'ailleurs. Et elle était très en colère. Et le vendredi, donc à peu près au moment où elle a rencontré les personnes, elle leur a dit quitter le lieu où j'appelle la police. Elle a fait valoir son droit de propriétaire et les squatteurs ont fait valoir leur droit au logement, qui a entamé toute une procédure qui commençait par une plainte.
Et du côté des squatteurs, de quelle façon ont-ils réagi en apprenant que la propriétaire demandait leur expulsion?
Oui, les squatteurs n'étaient pas surpris. En général, c'est la réaction des gens qui voient leur bien occupé contre leur consentement. En fait, leur surprise à eux, c'est d'apprendre que la maison appartenait à cette vieille dame. Ils pensaient que la maison avait été rachetée par Toulouse Métropole, la collectivité, car Toulouse Métropole a en fait racheté des bâtiments et des terrains tout autour. Ils se sont mal renseignés Et quand ils l'ont découvert, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ailleurs de partir en fait de cette maison quelques jours plus tard.
Gaël, vous avez pu vous rendre dans cette maison. Dans quel état est-elle aujourd'hui ?
Alors, je précise que j'ai pu me rendre dans cette maison, ce qui est très rare en fait. Par exemple, dans l'affaire Roland, dont on parlera peut-être un peu après, qui est une autre histoire de squat à Toulouse en début d'année. Et les occupants, les squatteurs, ont systématiquement refusé tout contact avec les journalistes pour diverses raisons, ce qui a eu comme conséquence qu'on les a jamais entendus dans l'histoire précédente. Là, justement, les occupants, voyant qu'ils allaient perdre le contrôle sur l'affaire médiatique qui commençait à bouillir, nous ont contactés nous ont proposé une rencontre, ce qu'on a accepté. Et donc, moi, quand je suis rentré dedans, elle avait été rangée. Moi, ils m'ont montré des photos où on voyait du désordre, des affaires au sol, des vitres brisées. Ils m'ont parlé d'excréments également. La maison que j'ai pu visiter à ce moment-là était propre, en état d'être habitée, en fait. Ils ont mis un cadenas sur le portail extérieur, ce qui est toujours ce qu'ils font, enfin voilà, pour se protéger de leur point de vue. Et ils ont mis une chaîne dans une porte du rez-de-chaussée parce qu'elle avait été forcée. Eux disent qu'ils l'ont découverte comme ça. Moi, j'ai aucun moyen de contrebalancer ça, mais en tout cas, eux disent que la maison avait été cambriolée plusieurs fois avant qu'ils arrivent et qu'ils ont mis une chaîne dans la porte fracassée pour pouvoir la fermer malgré tout. Elle était rangée, en fait, elle était propre à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant, a priori.
On en vient maintenant au cœur de votre démarche dans cet article. Je le disais, vous avez souhaité laisser la parole aux deux parties, c'est-à-dire à la fois à Monique et aux squatteurs. Vous rappelez évidemment dans votre article que leur démarche est illégale. Monique, tout d'abord, et c'est son droit, n'a pas souhaité répondre à vos questions, c'est bien ça?
Ouais, c'est vrai. Et en fait, je suis arrivé le jour de leur sortie. Et donc, j'ai discuté d'abord avec eux et j'ai attendu que la propriétaire arrive avec un huissier et un serrurier. Je me suis présenté à l'extérieur dans la rue et elle était très énervée, ce que je comprends. Je serais sans doute dans le même état si j'étais à sa place. Bon, elle a refusé de parler. C'est son droit le plus strict et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre moyen de... J'ai pas pu contacter d'autres membres de sa famille pour vérifier plein d'informations, ne serait-ce que sur son père résistant, dont la presse par ailleurs a fait grand cas pour dénoncer l'occupation de cette maison d'un ancien résistant, comme si ça donnait plus droit à quoi que ce soit, mais peu importe. Et du coup, elle, j'ai pas pu échanger plus que quelques mots avec elle. Les autres, par contre, les occupants très éphémères de cette maison inoccupée, ils ont, pour certains d'entre eux, pu me raconter comment ils en étaient arrivés là. Et je trouvais ça important parce que le discours ambiant, c'est vrai que c'est illégal d'occuper des biens d'autrui. C'est normal que ça le soit, à mon avis, enfin, c'est une opinion personnelle. Mais il faut comprendre comment des gens arrivent à cette extrémité-là. Il y a peut-être certains cas de personnes qui le font par parasitisme, on pourrait dire, pour être un peu agressif. Mais la plupart sont des pauvres gens.
Ces squatteurs à la rencontre desquels vous êtes allé, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines et de certains d'entre eux? Et justement, dans quelles conditions ont-ils été amenés à venir squatter cette maison?
Alors, sur la dizaine de personnes qui formaient ce nouveau collectif, qui ne se connaissaient pas avant, il y avait par exemple une dame qui avait dans les 62 ans, qui était originaire du Gers, qui avait élevé ses 4 enfants toute seule, en enchaînant les petits boulots dans l'agroalimentaire ou dans ce qu'on peut trouver dans le Gers, ce qui est pas forcément très facile. Et à partir du moment où son dernier fils est parti, elle s'est retrouvée toute seule dans sa maison, isolée, en fin fond de la campagne. Sa voiture a rendu l'âme. Au final, en fait, elle a même dû l'envoyer à la casse parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire la réparation de son véhicule comme lui demandait le contrôle technique. Donc elle s'est retrouvée démunie avec 500 € par mois sans pouvoir prendre sa retraite parce qu'elle n'avait pas les trimestres requis. Donc faut imaginer l'horreur de la chose. Vous travaillez toute votre vie, vous élevez vos enfants malgré tout, et vous vous retrouvez avec 500 euros, ben c'est rien, perdu à 20 km des premiers commerces, sans voiture. Elle m'a expliqué qu'elle était venue à Toulouse, où d'ailleurs elle a au moins un enfant, ben pour trouver plus de facilité à vivre, pour trouver des services de proximité, un logement, etc. Et qu'elle en était venue à vivre dans des squats. Enfin, je veux dire, interrogez-vous, quoi. Vous, les auditeurs, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Vous avez 500 euros par mois, pas d'économie. À un moment, on ne peut pas vivre dehors, quoi. Donc, quand on voit des maisons, moi, je comprends que des gens arrivés à ce point disent, bon, bah, celle-là, elle est inoccupée, je vais pas grelotter dehors, quoi. Aujourd'hui, cette dame, elle a l'air quand même très fatiguée, du coup. Et alors, dans les quelques jours qui ont suivi sa sortie de ce lieu, elle est allée vivre dans le salon de son fils sur un matelas par terre. Enfin, on peut honnêtement pas imaginer que ça soit une solution viable, en fait. Donc, c'est une des personnes qui m'a assez touché. On essaye de garder de la distance en tant que journaliste, mais parfois on est quand même très touché par les gens qu'on rencontre. Et cette dame-là en fait partie. À côté d'elle, il y avait une personne qui avait fait 15 ans de chômage. Alors on peut dire qu'elle était peut-être inadaptée, c'est vrai. Chômeur de très longue durée, mais qui s'impliquait bénévolement dans diverses associations, pareil au RSA, qui vivait chez sa mère jusque-là, alors qu'il avait une quarantaine d'années, et qui bah, là disait, pour garder une bonne relation avec ma mère, il a fallu que je quitte ce lieu, quoi. Et qui essayait de se reconstruire, de retrouver un lien avec les autres, et qui les a trouvés via cet engagement pour lequel on peut être complètement opposé, mais en tout cas qui a trouvé un toit comme ça, quoi. Et il y avait plusieurs autres exemples de gens. Il y avait aussi des ouvriers, un ouvrier du bâtiment qui galérait, un auto-entrepreneur qui, du fait de son statut, ne pouvait pas louer un appartement, parce qu'aujourd'hui, sans CDI, on peut pas louer un appartement. Un intermittent qui avait pas assez de crédit pour bénéficier de ce système et du coup pouvoir louer. Ben voilà, c'est des gens qui en sont réduits à cette extrémité-là, en fait.
Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydro-discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine.
Gaël, à travers vous, et encore plus en lisant votre papier, on comprend donc un peu qui sont ces squatteurs. Pas d'angélisme, hein, d'ailleurs, dans cet article, pas de sensiblerie particulière, mais cette démarche d'essayer de comprendre, elle n'est pas toujours celle qui est privilégiée par certains médias. On pense évidemment à la presse d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles, c'est son fonds de commerce, mais la Dépêche du Midi, par exemple, et puisqu'il est ici question de Toulouse, n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Une affaire en particulier vous a marqué récemment.
Oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que cette affaire, elle vient après celle, donc l'affaire Monique, l'éphémère affaire Monique, elle vient après l'affaire Roland qui a défrayé la chronique en début d'année. L'affaire Roland, c'est une maison, pas du tout dans le même quartier, mais une petite maison, a priori inoccupée depuis des années, puisqu'il n'y avait même pas de contrat EDF, d'après mes informations sur ce lieu, et qui a été occupée à partir de septembre ou d'octobre 2020. Et pour laquelle toute une campagne médiatique s'est mise en place à partir de janvier, une campagne lancée par La Dépêche qui a consacré 4 unes et plus d'une vingtaine d'articles sur le sujet pour dénoncer l'occupation de cette maison par, je schématise, de méchants squatteurs qui auraient éjecté un octogénaire, ce qui n'est pas du tout la réalité. Ils n'ont pas éjecté cette personne de la maison, elle n'y vivait pas. Elle y allait peut-être, mais la justice avait décidé prononcer l'éviction, l'expulsion de ces personnes, mais au terme de la trêve hivernale, parce que les propriétaires ont des droits. Je suis moi-même propriétaire, je suis très content d'avoir des droits, mais les habitants en ont aussi, quoi. Les squatteurs en ont aussi, et la justice a pris une décision. Au printemps, ils devaient partir, ils l'auraient fait. Et voilà, je vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, parce que pour le coup, nous, on n'a pas fait d'article dessus, on s'est senti complètement submergé par le traitement de La Dépêche, Actu, Toulouse, BFM, CNews, etc. Tout le monde y est allé, quoi. C'est devenu même une affaire nationale. Et ce qui était très étrange, c'est qu'il n'y avait qu'une version qui était parfois très contradictoire dans les propres articles de nos confrères. Et ce qui était encore plus dérangeant, c'était que c'était un discours qui émanait d'une certaine frange militante qui a monté tout un collectif anti-squatteur dans lequel on retrouvait beaucoup de gens issus de l'extrême droite. Alors on peut se retrouver surtout si des gens de l'extrême droite sont pour la bouffe bio, très bien, et on sera d'accord là-dessus. Mais bon, ça pose quand même question quand on s'appuie sur ce genre de sources pour établir nos articles, je trouve, sans prendre jamais de recul, sans le citer, sans le dire, ce qui est important. Et ces gens-là, on les retrouve à l'initiative de l'article de Valeurs Actuelles, à l'initiative de l'article de La Dépêche, où ils sont abondamment cités, et à l'initiative du début d'un collectif d'anti-squatteurs. Venez, on va aller devant la maison de Monique pour virer ces charognards, comme ils les appellent dans une vidéo. Ils sont très violents, ils les déshumanisent complètement, et je trouve ça assez choquant qu'on, en tant que journaliste, qu'on n'aille pas plus loin, enfin qu'on ne prenne jamais de recul avec ces sources quand ce sont des sources de cette violence-là, quoi.
Oui, quand vous évoquez cette patte de l'extrême droite dans la médiatisation et dans l'instrumentalisation de cette affaire, elle n'est pas à chercher très loin. On peut même parler d'ultra-droite, puisque cette histoire a été largement montée en épingle sur les réseaux sociaux par un sympathisant de l'Action française, c'est bien ça?
Alors, la personne, qui s'appelle Vince K ou Vince Ken sur Facebook, quand on regarde son profil, il est très anti-Macron. J'ai essayé de voir d'où il sortait, en fait. Il est très anti-Macron, très Marine Le Pen, d'après ses soutiens, qu'il affiche sur son site. Donc on peut le situer plutôt à l'extrême droite comme ça. Il a appelé à se mobiliser contre ce nouveau squat, et parallèlement, un groupe Facebook a été créé, Comité de Libération, enfin c'était pas ça le mot, mais c'était plus ou moins ça, groupe anti-squat de la rue de la Garonne pour défendre Monique. La page de ce groupe émet la page de l'Action française, donc je ne sais pas si ce sont la même personne, mais a priori, j'ai pas la preuve, mais a priori, cette personne a dit qu'elle allait créer le groupe, et le groupe en question aimait l'Action française, et au début de la page, parce qu'elle n'existe plus, les trois personnes qui l'aimaient étaient des membres revendiqués de l'Action française. Sur leur propre profil, ils le montraient. Donc, l'Action française, c'est un groupuscule royaliste d'extrême droite qui aime bien faire des petites actions comme ça, d'ailleurs, comme tous les groupes militants.
Qui s'est d'ailleurs récemment signalé en Occitanie.
Voilà, c'est ça, et qui... A récemment infiltré l'hémicycle du conseil régional, interrompant les débats des élus pour déployer une banderole. Enfin, ils sont rentrés illégalement dans ce lieu qui est ouvert au public normalement, alors peut-être pas dans les conditions sanitaires actuelles, mais voilà, on parle quand même d'un groupe un peu comme Génération Identitaire qui a été interdit, et c'est des gens plutôt violents qui sont dans cette sphère vraiment d'extrême droite, quoi.
Gaël, on sent dans votre article, de manière sans doute plus large, une forme de lassitude ou de ras-le-bol, qui est d'ailleurs un sentiment que l'on trouve chez beaucoup de journalistes, celui de voir le tempo médiatique être guidé par l'extrême droite, des situations exploitées pour permettre sans cesse au même thème de revenir, l'immigration, la sécurité, l'islam, la diabolisation des plus pauvres. Est-ce qu'on peut résumer cela comme ça ?
Je ne sais pas si on peut le résumer, mais effectivement, il y a de ma part une certaine lassitude à voir localement, en tout cas, mes confrères tomber dans le panneau, quoi. Vraiment, je ne sais pas s'ils nous écouteront, mais quand je vois La Dépêche ou Le Parisien qui reprennent sans recul les informations de cette personne qui dit « les squatteurs sont partis le jeudi 19 alors que moi j'y étais, je l'ai écrit et ils sont partis la veille », ça paraît anecdotique à un jour près. Au final, ça change pas grand-chose, mais c'est factuellement faux, et ça en dit long sur la crédibilité de cette source qui raconte des choses qu'on ne peut pas vérifier. Et mes confrères et consoeurs, en l'occurrence, ont repris sans recul ce témoignage. Enfin, je sais pas du bon boulot, je trouve vraiment, je suis désolé de le dire, quoi. Faut faire un peu gaffe, quoi. Et surtout sans dire qui parle, quoi. Moi, les squatteurs, je les ai pas nommés parce que, pour diverses raisons, on a décidé de les anonymiser, mais parce que ce sont, à notre sens, des personnes vulnérables, mais on a dit d'où elles parlaient, quoi. Nous, on dit d'où on parle. On tend le micro à quelqu'un comme si c'était une personne lambda, alors qu'elle a un agenda politique, un agenda qui met plus de violence dans le débat, plus d'agressivité, qui réduit ses concitoyens, même si on peut ne pas être d'accord avec les gens, mais les déshumaniser à ce point-là, moi je trouve ça vraiment dangereux, en fait, surtout dans le contexte actuel, surtout avec les perspectives actuelles. Et c'est de la lassitude et un peu de colère de voir tous les autres médias faire ça, quoi. Enfin, tomber là-dedans par facilité. Oui, ce sont des quotidiens qui ont leurs difficultés, qui doivent pondre des articles très vite, mais ça excuse pas tout, quoi.
Une partie des autres médias, en tout cas, j'imagine que c'était ça le sens de...
Oui, une partie, pardon, évidemment, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, mais franchement, sur cette affaire, Le Parisien a fait l'erreur que je citais, Actu Toulouse a fait l'erreur que je citais, Le Figaro a repris, il n'y a pas beaucoup de réussite, c'est pas une grosse gloire médiatique ce sujet, quoi.
Gaël, une dernière question, que vont devenir désormais les personnes que vous avez rencontrées et qui ont donc dû quitter ce squat ?
Alors, ça fait plusieurs jours déjà, donc les informations que j'ai sont sans doute déjà périmées. À la sortie, certains d'entre eux disaient qu'ils allaient aller dans d'autres squats, d'autres à la rue, certains vont dormir dans des voitures sur des parkings. La dame dont je parlais, a priori chez son fils. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons et de bâtiments, de bureaux inoccupés à Toulouse, mais partout en France, et qu'à côté de ça, il y a 5000 sans-abri, quoi, 5000 personnes qui n'ont pas de toit. Donc, ils font partie de cette cohorte de miséreux. Et les logements sociaux, je sais plus, j'ai entendu 36 mois d'attente. Eux, ils en avaient en tout cas depuis... Il y a une personne qui attendait depuis 18 mois un logement social. Donc, il n'y a pas de solution, en fait. Ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de logement. Que faut-il faire, hein?
Merci beaucoup, Gaël Serres, d'avoir répondu aux questions de podcasting et de nous avoir accueillis dans les locaux de Médiacité Toulouse. Je rappelle le titre de votre article « Maison squattée à Toulouse, derrière la polémique, la réalité de la grande précarité ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.